faire un dog trip en terre viking avec son chien. C'est ce que propose Charles Arisa, guide polaire, lors de ses escapades dog-friendly dans le sud de la Suède. Un petit groupe, peu de chiens et un milieu naturel accueillant entre la mer du Nord et une immense forêt boréale. Tout ce qu'il faut pour une semaine de voyage typique au cœur de la Suède avec son chien. Et le must, c'est qu'il s'occupe de tout. Organisation des randonnées, du logement, des repas des humains, etc. Vous n'avez qu'à profiter. Retrouvez toutes les infos sur son site, charlarisa.com. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. Deux lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Julien nous partage son canoë trip sur les grands lacs suédois qu'il a fait avec sa compagne et Flouki, son tamascan. Un voyage organisé ou presque d'une semaine où ils ont pu profiter de la beauté des paysages, de la nature, du calme et d'îles désertes. Un épisode truffé de bons conseils pour voyager sereinement avec son chien. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Julien, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le podcast Tweet.
Hello, ben oui ça va très bien, merci, un petit peu malade mais ça va, c'est chouette, on va parler aventure donc ça va me redynamiser.
surtout qu'on va parler des tiennes donc j'espère bien. Je suis vraiment trop contente de t'avoir aujourd'hui puisque ça fait une éternité qu'on devait enregistrer cet épisode et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, en tout cas j'ai plein de questions. Donc on va parler d'un canoë trip que tu as fait en Suède donc en 2021. Mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter ton loulou ?
Alors bonjour, moi donc je m'appelle Julien, je suis j'ai 35 ans, je suis belge, je vis en Ardennes en pleine forêt à peu de choses près et effectivement, je suis propriétaire, je suis le camarade d'aventure d'un magnifique tamascan qui s'appelle Flouki qui vient d'avoir 3 ans. Voilà, une race qui était pas très connue, une race un peu coup de cœur parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un chien loup mais le problème que j'avais, c'est que moi, comme je fais pas mal d'aventures, il me fallait un chien qui soit quand même assez sociable et pas finalement avec peu de caractère du loup. Et donc, c'est justement l'objectif de cette race. Donc, j'ai découvert cette race il y a 6-7 ans avec un ami qui vit d'ailleurs, qui est d'ailleurs maintenant musher en Norvège. Et donc voilà, j'ai flashé et puis c'est parfois on peut appeler ça le destin ou le hasard, enfin ça c'est suivant les obédiences. En 2020 effectivement je tombe sur une annonce d'une portée en Belgique et donc je me porte candidat et mon profil a été retenu puisque un des critères pour de l'éleveur pour prétendre à devenir potentiellement un camarade de jeu pour ces chiens-là, c'était quand même d'être assez actif, on va dire. Et donc, moi, avec je suis blogueur depuis, blogueur aventure depuis 12 ans maintenant, l'aventure et la bougeotte, ça me connaît. Et donc, finalement, c'était une race qui force est de constater, me correspondait bien puisque j'ai pas eu trop de soucis à convaincre l'éleveur de me confier un des petits de la portée. Et donc, voilà, c'était le petit Philiberk, puisque c'était une portée dont les noms étaient inspirés de la bande dessinée belge. Et donc, il va de soi qu'un Philiberk, j'ai décidé de changer en Flouki, qui est beaucoup plus, beaucoup plus en lien avec ce que j'aime, avec la Scandinavie, avec le petit côté, la petite folie, et surtout le côté aventureux de Flouki, qui est le découvreur de l'Islande avant d'être un personnage de la série Vikings. Voilà un petit peu le parcours de nous deux, en fait.
Et justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette race, moi, la première, à quoi ça ressemble un tamascan ?
Alors, justement, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, c'est une race qui est en constitution. Donc, il n'y a pas de studbook fermé. C'est vraiment une race qui est en évolution. Donc, les modèles sont très différents en fonction des lignées, en fonction des élevages. Donc, on peut retrouver, par exemple, il faut savoir que tout hybride de loup, quel qu'il soit, qu'importe la génération, est interdit. En tout cas, le chien tchèque est interdit en Norvège. Et toutes les hybridations à partir de chien tchèque est interdite en Norvège. Donc, il existe des lignées où il y a du chien loup tchèque qui a été rajouté, mais à la base de la base, la race tamascan, c'est surtout un mélange de chiens nordiques, donc de skis sibériens principalement, de malamoutes, même de samoyèdes. Donc, c'est un mixte vraiment de chiens nordiques qui a été développé par un par un éleveur de chiens de traîneau qui s'appelait, qui avait une écurie, enfin une écurie, on s'entend, une équipe de chiens de traîneau qui s'appelait Polar Speed en Finlande. Et donc, c'était des chiens qui étaient déjà très performants. Et certains de ces chiens avaient un caractère lupoïde assez marqué. Et d'ailleurs, certains de ces chiens ont fait du cinéma. Et la demande s'est faite comme ça, en fait, parce que ces chiens étaient relativement obéissants, en tout cas beaucoup plus facile qu'un loup, beaucoup plus facile qu'un chien loup. Et donc, ils ont développé la race. Et puis, il y a une dame écossaise, pour le coup, qui a elle aussi s'est pris de passion et a rencontré cet élevage Polar Speed en Finlande et qui a acheté quelques spécimens. Et elle a décidé de rajouter dans les générations du chien loup tchèque. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est commun. Donc, par exemple, en Norvège, il y a des élevages de Tamascan qui sont absolument sans apport de loup, sans apport de chien loup tchèque, sans apport d'American Wolf Dog ou autre. Il s'avère que moi, je pensais que c'était le cas. Bon, c'est pas grave, mais Floki, lui, a quand même assez bien de génétique loup, finalement, puisque j'ai pas fait de test génétique, mais ses frères et sœurs ont environ entre 15 et 25% de génétique loup, ce qui est quand même assez élevé quand on analyse ça. Et donc, Floki a du chien loup tchèque du côté de sa maman et du chien loup tchèque ainsi que de l'American Wolf Dog du côté de son papa, ce qui fait que c'est un chien qui ressemble beaucoup plus au loup américain, donc très haut sur pattes, très élancé, avec une très grosse encolure, une très grosse crinière au niveau de l'encolure, ce qui est typique des loups en fait américains et des chiens loups américains. Les loups européens sont beaucoup plus trapus, sont beaucoup plus massifs aussi, puisque Floki est un gabarit assez sportif. Il fait 32 entre il oscille entre 30 et 32 kilos, donc c'est pas si lourd que ça. Savoir qu'un loup européen, les loups qu'on a notamment ici en Ardennes ont été évalués entre 50 et 65 kilos, quoi. Donc on est quasi au double de volume, et ce sont des loups qui sont beaucoup plus courts sur pattes. Floki en fait tient plus du loup américain en fait que du loup européen.
Ok, donc si on se l'imagine physiquement,
dans sa morphologie, c'est plus un chien quoi, dans sa morphologie, voilà, tout à fait. Oui, exactement, avec un, lui pour le coup et l'ensemble de la lignée, enfin de sa fratrie, pardon, est assez typé puisqu'il a les yeux jaunes en amande, vraiment type, enfin vraiment très lupoïde, et donc ça lui donne vraiment un air très joli. Heureusement qu'il sourit beaucoup parce que quand alors c'est le problème de ces chiens-là, hein, c'est que ce que j'appelle moi un délit de faciès, hein. Donc c'est-à-dire que ça sera toujours quand ça dérape, les rares fois où ça peut déraper, un chien en liberté qui vient alors que Floki est attaché, ben c'est vrai que ça sera toujours de sa faute, et malheureusement c'est un peu ennuyeux d'avoir ce genre de réaction, mais il faut en être conscient quand on prend ce genre de chien. J'avoue que j'avais pas été fort préparé à ça, parce que c'était un chien Covid, donc au début tout il était beau, tout il était gentil, mais en fait plus les années passent et plus en fait il y a un délit de faciès, quoi. Donc d'office, quand il va grogner, quand il y a deux chiens qui grognent, les gens vont se retourner d'abord sur lui avec un peu de crainte ou parfois de peur, et parfois je n'arrive pas à déterminer, mais c'est pas toujours évident en tout cas de se promener en ville avec ce type de chien notamment, et c'est de moins en moins facile, j'ai l'impression. Après, heureusement, c'est un chien qui est très sociable, qui aime l'homme, contrairement à certains chiens loups. Il est vraiment, il a vraiment toutes les caractéristiques de ce que doit être un Tamascan, c'est-à-dire un physique de loup mais un caractère de chien. Mais il reste très très lupoïde dans sa morphologie, donc impressionnant. En fait, à la base de la race Tamascan, il y a cette idée d'avoir un chien qui ressemble au un chien, oui, c'est bien ça, c'est un lapsus révélateur, un chien qui ressemble au loup, mais avec un caractère de chien, c'est-à-dire une relative facilité d'éducation avec un minimum de rappel. Et on sait bien que plus la proportion de loup dans un chien loup est élevée, plus c'est compliqué. Ce sont des animaux qui vont être beaucoup plus sur la défense, beaucoup plus méfiants, qui vont avoir
oui, ben ce sont des animaux sauvages,
voilà, hein. Tout à fait. Et donc dans cette race, c'est tous ces caractères là qu'ils ont essayé de d'évincer, et donc en fait pour se rapprocher d'un chien qui, au niveau de son caractère, aujourd'hui quand je discute avec d'autres propriétaires, ressemble très fort au caractère d'un husky sibérien, quoi. Donc ça reste quand même des chiens qui sont pas faciles, qui sont très têtus, qui n'ont globalement un rappel qui est tout à fait approximatif. Et donc voilà, c'est vraiment pas des chiens
bien
évidents.
Y réfléchir avant de vouloir adopter un Tamascan, bien que ça soit très beau.
Oui, oui bien sûr.
Ça ouais. Reste des responsabilités.
Tout à fait.
Complètement. Et tu disais un peu plus tôt, donc c'est un chien qui est interdit en Norvège. J'imagine que la Norvège, toi, ça te concerne particulièrement. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres pays, notamment d'Europe, où ils sont interdits?
Alors non, en fait la Norvège est le seul pays qui a encore une liste assez longue de chiens. Il y a pas que, hein. Il y a le Canet Corso, il y a d'autres chiens qui sont. La liste est relativement longue qui sont interdites. Il y a des races qui sont interdites pour des raisons, je vais dire, de bien-être animal. Donc tout ce qui est race brachycéphale est interdite. Et puis effectivement dans les chiens interdits, il y a une il y a quelque chose d'assez étrange en Norvège, c'est que le chien loutchek est interdit. Et en fait, quand un chien est sur la liste des chiens interdits, l'ensemble des hybrides de ce chien-là, donc tous les mélanges à partir de ce chien-là, sont interdits. Donc, ça veut dire qu'un Tamascan qui a du chien loutchek ne peut pas aller. Un berger allemand qui serait, enfin, voilà, un mélange quelconque avec du chien loutchek serait complètement interdit. Et par contre, le paradoxe, que je ne m'explique pas et je n'ai pas trouvé la réponse, pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché, c'est que par contre, le chien loup de Sarlose, lui, est autorisé en Norvège. Donc, c'est assez ubuesque comme situation. Mais faut savoir que la Norvège, bon, comme c'est pas un pays européen, c'est à ses propres mesures. Faut savoir que en Norvège, l'introduction d'animaux, quels qu'ils soient, de manière illégale ou sans déclaration, ça peut aboutir à l'abattage de l'animal. Donc voilà, il faut pas jouer avec le feu. Donc voilà. Et alors, les douanes peuvent exiger un embargo génétique. Donc, s'ils ont un doute sur l'origine du chien, en se disant, tiens, celui-là, il ressemble quand même vachement à un loup, ça doit être un chien loup tchèque, ils peuvent exiger l'embargo génétique. Et donc, si l'embargo dit qu'il y a du chien loup.
Oui, donc en cas de doute, ne pas l'emmener.
Voilà. En cas de doute, effectivement, c'est le mieux.
Mais donc, dans l'ensemble, Floki, tu peux l'emmener dans tous les autres pays d'Europe?
Oui, absolument. Il n'y a pas d'autres pays qui sont à ce point. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, la Norvège est le seul pays aussi contraignant par rapport au chien loutchek.
Ouais.
Je sais pas pourquoi.
Donc, on s'appelait aujourd'hui pour parler de ton trip en canoë que tu as fait en Suède. Tu es parti en 2021 et Floki a 3 ans, donc il était tout petit en fait quand tu as fait cette aventure avec lui.
Oui, tout à fait. Donc, en 2021, c'était en juillet, je pense. Donc, Floki avait 6-7 mois, ouais. Il était vraiment tout tout petit. Ouais, c'était sa première aventure de plusieurs jours, puisqu'on est parti une semaine complète. Enfin, ça a été 5 jours d'aventure, mais avec le trajet, évidemment, on est monté là-haut en voiture pour la facilité et la contrainte liée au chien. C'est une aventure qui a eu lieu dans le Värmland, donc qui est un comté du sud-ouest de la Suède, à la frontière avec la Norvège. Et c'est un endroit qui est constitué de pas mal de lacs, en fait, qui sont assez grands. Dans cette région, on sait faire vraiment des itinérances en canoë qui sont assez intéressantes.
Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller avec Floki du coup?
Ben en fait, pour la petite histoire, c'est un reportage que je faisais donc pour mon blog Les Sentiers du Phénix et j'avais été contacté par une agence de voyage belge qui organise plein plein d'aventures partout en Europe et ailleurs d'ailleurs. Et à l'époque, c'était un peu leur produit phare, c'était le canoë trip. Ça avait été lancé un peu avant le Covid. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été un adorateur de la Scandinavie. Et je me suis dit, bah tiens, là, c'est un bon moyen de tester un peu leur voyage, d'avoir la sécurité d'une aventure organisée, parce que d'habitude, je pars par moi, par mes propres moyens, donc j'organise mes propres voyages, mes propres aventures. Là, c'était l'occasion de profiter d'un cadre un peu plus organisé pour justement emmener Floki et ne pas avoir justement ce stress éventuel de tiens où doit-on aller, que doit-on faire, mince, faut un backup, faut ci, faut là. Tout ça était prévu, donc c'est une des raisons qui m'a poussé à collaborer avec cette agence-là. Et puis parce que c'était une région que je connaissais enfin que je connaissais de par mes recherches comme étant une région du sud de la Suède, donc on n'est pas non plus dans le Grand Nord et les grands espaces sauvages du Nord, mais enfin c'est des zones qui sont quand même globalement vachement plus sauvage que ce qu'on peut connaître en France, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg. Et donc, c'était vraiment, pour moi, tout s'alignait pour que je puisse aller vivre une aventure de dingue en Scandinavie, sur l'eau, en canoë, et avec Floki, bien évidemment, qui était très jeune, quoi, du coup.
Et ça veut dire que tous les voyages qu'ils proposent sont OK chien? On peut emmener son chien dans tous les voyages qu'ils organisent avec cette agence?
Alors non, malheureusement non, parce que il y a des voyages notamment en Islande. En Islande, aucun animal ne peut y entrer à moins de faire une quarantaine.
Mais ils ont une liste voyage dog friendly.
En tout cas, je pense que c'est en cours. Ils avaient cette réflexion là, mais globalement non. C'est je vais dire que c'est un peu l'exception. En tout cas pour le moment, c'est pas dit qu'ils en développent d'autres. Mais c'est vrai que c'est le voyage, en tout cas, dans sa formule qui s'adapte le mieux, enfin, qui se prête le mieux à le partager avec son animal de compagnie, quoi.
Ok, c'est rigolo parce qu'on n'aurait pas tendance à penser ça forcément du fait que ça soit en canoë.
Ouais, après, voilà, honnêtement, je ne sais pas si beaucoup de gens ont fait cette aventure avec leur chien. Je sais que l'année qui a suivi et la même année où je suis allé, il y a eu 2-3 participants. Je pense que c'est pas non plus c'est pas un core business chez eux, hein. C'est vraiment une possibilité qui est offerte parce que mine de rien, faut que le chien soit habitué. Moi, Floki, comme j'ai une activité sur le côté, une activité complémentaire où je fais des activités nature, du bivouac, de la rando et du packraft, donc qui est un petit bateau gonflable qui tient dans un sac à dos. Ben Floki a été sur un bateau à partir de un mois et demi, il était sur un bateau, donc il avait l'habitude déjà d'être dans un canoë. Et ça, je dirais que c'est vraiment capital pour la réussite du voyage et pour en profiter vraiment, c'est que le chien soit habitué à pouvoir rester dans l'embarcation. Parce que bon, quand on a un chien comme un Tamascan, comme un chien loup, je sais pas, un border collie qui a besoin de se dépenser à mort, faut quand même qu'il soit habitué à pouvoir rester sans rien faire pendant des heures, quoi, parce que c'est le cas, hein, pendant que vous pagayez, le chien,
ouais,
il est...
Mais justement, comment ça se passait une journée type pendant ce voyage?
Alors bon, déjà, il faut savoir que le parcours complet de qui est offert aux participants, c'est environ 120 km. Nous, on n'en a fait que 86 exactement. Donc, ça montre déjà sur 5 jours. Pourquoi? Tout simplement pour le chien. C'était tout simplement pour Floki parce qu'il fallait qu'on s'arrête régulièrement. Donc, on essayait de s'arrêter toutes les heures 30, 2 heures pour qu'il puisse... ça nous profitait aussi. Hein. Mais pour se dégourdir les jambes, ses besoins, le nourrir, etc. Et puis qu'il se défoule parce que bon, ça restait quand même un très jeune chien. Alors, la journée type, disons que la première journée, c'est très mal passé puisqu'en fait on était à peine démarré d'une demi-heure qu'en fait Floki on a je sais pas pourquoi on avait décidé de le mettre à l'avant du canoë et ça n'allait pas, il bougeait, il se retournait, le canoë est quand même vachement moins stable qu'un packraft, donc ça tanguait pas mal. Donc on a accosté, puis je me suis dit bon, c'est pas grave, on va faire comme les Indiens à l'époque, on va mettre le poids à l'arrière. Donc j'ai pris Floki entre mes jambes à l'arrière et là par contre il était beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. Par contre il a fait, je ne sais pas, on ne se l'explique toujours pas, mais il s'est retourné à un moment donné et il a pincé la corde de son jarret dans le bord du canoë et donc ça lui a fait très mal. Il a été surpris à mon avis par la douleur et donc il est passé par-dessus bord. Alors heureusement on avait investi à l'époque dans un gilet de sauvetage et je pense que même si les chiens ont l'habitude de nager, c'est quand même pas mal parce que là on est quand même avec des lacs extrêmement profonds, extrêmement grands, hein. Certains font plusieurs dizaines de kilomètres de long et parfois de large. Donc on peut se retrouver vraiment au milieu de grandes étendues d'eau, donc c'est quand même plus sécurisant. Et en fait le Floki est tombé à l'eau avec le gilet, il risquait rien, mais je pense qu'il a vraiment eu peur. Parce que ce sont des chiens d'eau et depuis lors il a une méfiance totale envers l'eau. Ça ne sera jamais un chien qui sautera par-dessus bord, quoi. Je pense qu'il l'a fait une fois, il ne le fera pas deux fois.
Ouais.
Mais par contre, une fois qu'il y a eu cet événement malheureux, bon, on l'a calmé, on l'a fait remonter directement dans le canoë pour conjurer le sort, on va dire ça comme ça. Et après voilà, les journées types, en fait c'était assez simple. On démarrait très tôt le matin pour éviter la chaleur parce que c'était un été assez chaud. On pagayait comme j'ai dit par tranche de 2 heures et puis on le laissait courir et on essayait de trouver en fait systématiquement notre petit délire. À l'époque c'était, enfin lors de ce voyage, c'est que tous ces lacs sont parsemés d'une multitude d'îles. Et donc, en fait, on essayait de trouver chaque fois une île où on était seul. Et donc, à partir de 14-15 heures, on commençait à regarder un petit peu un endroit où accoster une petite île. Et on veillait à être tout seul. Comme ça, une fois qu'on avait monté le camp, débarqué, etc., ben, on lâchait Floki. Et Floki était tout seul sur son île. Et il jouait, il partait à la découverte de son petit univers. Et nous, de notre côté, on n'avait pas à se tracasser de quoi que ce soit, puisqu'il n'aurait jamais pu quitter l'île, quoi. Donc, on savait qu'il n'était jamais très loin. Et alors, ben voilà, on faisait notre petit feu, on passait la soirée. Généralement, Floki venait dormir à côté de nous, au coin du feu. Et puis, parfois, ben, il disparaissait, il allait sur, vagabonder un petit peu, puis il revenait tout seul au niveau des tentes. Donc, c'est vraiment quelque chose de chouette parce que, ben, sont des chiens qui sont d'habitude, dont il faut se méfier, en tout cas en liberté, parce que sont très réactifs au gibier. Et voilà, à partir de ce moment-là, leur instinct revient vite au galop. Donc, il fallait faire attention. On a dormi une seule fois sur le continent. Là, par contre, on l'avait laissé en longlesse, avec une longe, parce que, ben, on avait découvert des traces d'élan à proximité. Donc, on voulait éviter toute course-poursuite inopinée.
OK. Donc, vous dormiez en tente tous les soirs. Donc, j'imagine que vous aviez un paquetage assez conséquent sur le canoë. Vous aviez un canoë suffisamment grand pour tout avoir dessus. Comment vous faisiez, je sais pas, pour pas que votre sac tombe à l'eau et que tout soit trempé le soir en arrivant?
Ah oui, ben donc c'est du canoë, donc c'est, j'ai envie de dire, ça a été conçu pour ça. Donc c'est des canoës qui font plusieurs mètres de long, deux personnes, dans lesquels on sait mettre pas mal de choses. Donc là, je pense qu'en termes de matériel, on avait quand même facilement 15 kilos par personne. Donc, à mon avis, il y avait 30 ou 40 kilos de matériel, plus la nourriture, plus. Donc, mais tout ça, on peut se le permettre parce qu'il y a de la place dans le canoë. Et c'est même mieux parce que ça stabilise l'embarcation. Après, ben, il y avait évidemment nos affaires à nous. Donc, on était deux, plus le chien. C'est vrai que c'est, ben, le chien, il faut prendre sa nourriture. Il faut aussi envisager plein de petites choses, une trousse de secours, etc., etc. Donc, il y avait plein de choses. Maintenant, l'avantage du canoë, comme on n'est jamais en portage et que le canoë porte tout, on peut vraiment prendre sans se soucier de « oh mince, ça va être trop lourd dans le sac à dos », quoi. Ça, on s'en fout. On pouvait vraiment parer à toutes les éventualités. Donc ça, on avait vraiment, moi qui ai l'habitude en plus de partir à l'aventure, j'avais vraiment tout segmenté. Et alors, tout était réparti dans... L'organisation fournissait un ou deux tonneaux scellés, étanches. Et alors, moi, j'ai des sacs, des duffel bags qui sont également, alors pas étanches, mais qui résistent à l'eau, ce qui était assez confortable. On n'a pas eu de mauvais temps. Je pense qu'on a eu une petite pluie un jour. Mais c'est vrai que si on avait eu de la pluie un peu plus conséquente, bah, c'est important de protéger toutes ses affaires. Et puis voilà, on montait le camp une fois arrivé le soir sur l'île. Et puis, on s'occupait de Floki, on lui donnait à manger. Mais non, en termes de logistique, franchement, une itinérance en canoë, en tout cas avec un chien, c'est d'un confort absolu. C'est comme si on était en voiture et qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait dans le coffre.
Trop cool. Et justement, pour les personnes qui prévoiraient le même genre de canoë trip, qu'est-ce que tu leur conseilles d'avoir toujours avec eux, notamment pour leur chien?
En fait, je pense que le plus important quand on part... En fait, je prévois à nouveau une aventure avec Floki dans le futur. J'aimerais bien faire le Kungsleden, donc qui est un sentier en Suède à nouveau, mais dans le nord, en Laponie. Et donc là, j'ai déjà pas mal potassé ce qu'il faudrait. Et en fait, quand je regarde un petit peu tout ce qu'il faut quand on part à l'aventure avec son chien, ben, c'est con et ça paraît un peu, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est d'abord être soi-même complètement opérationnel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord soi-même être bien équipé pour pouvoir après bien s'occuper de son chien. En fait, comme le chien va être la...
Oui, c'est un peu l'analogie de l'avion.
Ah, je ne la connais pas, celle-là.
Dans le sens où tu mets ton masque.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
Premier sur toi.
Exactement.
Et ensuite,
exactement. C'est vraiment ça. Et je suis cavalier, moi, de base. Hein. C'est mon premier sport, c'est l'équitation. J'ai fait pas mal de randonnées à cheval quand j'étais gamin. Et je me souviens que mes enseignants à l'époque disaient toujours, de toute façon, quand on part en itinérance à cheval, c'est le cheval, le cheval, le cheval. Donc, c'est-à-dire que l'humain passe en second plan. Donc, on doit s'occuper du cheval. Et c'est une fois que le cheval a obtenu tous ses soins, notamment vraiment en fin de journée, qu'après on peut s'occuper de soi. Donc ici, c'est exactement pareil. Ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est le chien, le chien, le chien. Et c'est quand lui est enfin bien posé, qu'il a l'ensemble de l'environnement qui est sécurisé, qu'alors on va pouvoir soi-même mettre des choses en place et profiter. Donc c'est con, mais c'est bon, là il faisait très beau, mais si le temps est un peu plus compliqué, ben c'est simplement déjà être soi-même en bonne santé, donc avoir les bons vêtements, avoir de bonnes chaussures, avoir, enfin voilà, être bien, éviter tout, empêcher qu'il y ait le moindre problème. C'est vraiment pour moi la première source de sécurité pour son chien. Et puis une fois qu'on a ça, c'est évidemment avoir du bon matériel. Quand je parle de bon matériel, c'est une bonne tente. Alors un conseil que j'aurais à donner, c'est de prendre une tente qui est toujours une ou deux personnes supplémentaires. Comme ça, si vraiment il fait mauvais, bon, le chien peut quand même dormir à l'intérieur, parce qu'il faut quand même l'envisager aussi, ça. Nous, il a fait très beau en 2021, il faisait même caniculaire, c'était assez effroyable quand même d'avoir cette météo à ces latitudes. Donc Floki dormait souvent dehors, parfois dans l'abside, mais il n'a jamais dormi dans la tente. Par contre, moi, j'ai déjà bivouaqué en Belgique en intersaison avec lui. Et là, il faisait tellement mauvais, il pleuvait, il faisait froid. Mais là, il est rentré dans... Il est venu dormir avec moi. Donc voilà, il faut envisager ça. Je dirais que la tente, c'est vraiment un investissement important. Puis prévoir aussi ce dont son chien a besoin. Moi, c'est un chien nordique, donc voilà, il est globalement assez outdoor proof, mais il y a des chiens qui ont besoin. J'ai un camarade, d'ailleurs, s'il m'écoute, qui a un chien dalmatien Pixel qui l'emmène partout aussi à l'aventure. Et voilà, un dalmatien, ça, c'est pas la même limonade, quoi. Là où Floki gambade en bivouac hivernal sans rien, lui, il lui faut sa petite couverture. Et il a son propre sac de couchage quand on bivouac, parce que un dalmatien n'a pas le même poil qu'un tamascan, qu'un chien du Nord. Donc voilà, c'est finalement connaître son chien et avoir vraiment les éléments importants. Après, c'est exactement, moi je cale en fait exactement ce dont mon processus quand je pars à l'aventure. J'ai mes vêtements, j'ai ma nourriture, puis j'ai des backups, donc des choses où je me dis, tiens, si ça foire, j'ai ça, si j'ai ceci, j'ai toujours du backup. Donc pareil pour le chien, prendre un peu plus de nourriture, on ne sait jamais. C'est con, mais c'est le Nord, donc on peut avoir des animaux qui viennent chipper de la nourriture. On peut avoir une laisse qui lâche. Moi, je conseille toujours d'avoir une deuxième laisse. Enfin, moi, je suis beaucoup avec des longes de 10-15 mètres. Comme ça, il a, je garde un contrôle, et puis il a quand même ses 10 ou 15 mètres de latitude. C'est c'est ça, un trousse de secours, le sac de couchage éventuellement pour le chien, toujours prévoir. Moi, j'avais aussi j'en porte systématiquement, mais c'est valable pour moi, mais c'est aussi valable pour le chien, un filtre à eau, parce qu'on ne sait jamais où on peut tomber. Alors bon, là, c'est des lacs, hein, donc il n'y avait pas trop de mal, mais pour le même prix, on peut être bloqué à un moment parce que le chien s'est blessé à un endroit où l'eau, on a un peu des doutes. Si son chien est blessé mais qu'il a soif, on ne va pas lui donner de l'eau croupie, donc un filtre, ça peut quand même être pas mal. Enfin voilà, c'est exactement la même chose que pour un humain, si ce n'est que on doit prévoir avec quelques petites adaptations pour nos amis. Après voilà, l'avantage du voyage comme ça, c'est que s'il y a peut-être une chose qu'on peut oublier, c'est tout ce qui est jouet, parce que l'environnement entier sera un jouet pour lui, quoi. Il y a des branches, il y a des cailloux, il y a des odeurs, il y a des sons qui n'ont pour ainsi dire jamais vu. Enfin, en tout cas, lui n'avait jamais vu ça, donc il était complètement dingue de ça.
Et des odeurs complètement différentes aussi de leur habitat, quoi.
Des odeurs complètement différentes, ouais, tout à fait. Et je pense à ça, c'est con, parce que moi, j'ai pas le problème, mais mon ami avec son dalmatien a ce problème-là. Le soleil, donc c'est de la crème solaire aussi pour le chien. Donc enfin voilà, c'est assez similaire en fait. C'est finalement comme un enfant. Il faut prévoir toutes les éventualités, tout le potentiel de conneries qu'ils peuvent avoir aussi, et les anticiper. Parce que là, il faut dire quand même que ce voyage, c'est 5 jours en itinérance. On est vraiment, alors c'est pas ça, on n'est pas non plus au milieu de nulle part et il y a des bateaux qui peuvent nous rapatrier. Mais enfin, on est quand même loin de tout. Donc il faut quand même, si la vie de son chien tient, enfin je sais pas, qu'il y a un accident et le temps que les secours arrivent, ça peut vite prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc il faut quand même pallier à tout ça et envisager ça aussi, quoi. Donc,
t'as fait une formation premier secours pour les animaux ?
Non, 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 je n'ai pas ça. Mais disons que je ne fais pas beaucoup de formation. Je devrais en faire plus, mais j'ai malheureusement pas beaucoup le temps. Par contre, bah, j'ai la chance d'avoir.
Non, non, t'inquiète, c'est parce que je me demandais.
Ah non, 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 mais comme je guide, tu vois, je guide des gens, hein, donc en pleine nature. Donc c'est des choses qui me sont déjà arrivées avec des personnes et qui peuvent très bien arriver avec un chien. Par exemple, c'est con, mais moi, Floki devait avoir, c'était un mois avant mon départ, j'ai appris un bête truc d'un propriétaire grand randonneur, et il faisait de la grande randonnée avec son chien. On s'est croisés dans les bois ici en Belgique, et s'avère que Floki avait joué comme un dingue, et c'était ouvert un des coussinets, mais assez fort. Et il s'avère que le hasard fait qu'on croit ce mec-là. Et tout de suite, il ouvre sa trousse de secours, parce que j'en avais une, mais que faire en cas de coupure d'un coussinet? Et il sort un pot de super glue. Et il dit, t'es toujours un pot de super glue. Comme ça, quand il se coupe le coussinet, tu peux recoller le coussinet. Alors, c'est un peu barbare, mais ça fait vraiment office de, ça empêche, en fait, les crasses de rentrer dans le coussinet et que ça s'infecte. Alors bon, évidemment, c'est temporaire, hein, mais c'est et donc du coup j'ai.
Oui, après tu vas chez le vétérinaire pour qu'il.
Voilà, mais par exemple, typiquement là, 5 jours d'itinérance, il y a un pépin avec son chien, c'est compliqué d'aller voir un vétérinaire. Donc il faut aussi trouver des choses comme ça. Donc c'est en termes de soins et d'anticipation, faut quand même pas prendre le truc trop à la légère. Parce que ça peut vite tourner, pas dire au drame, hein, mais ça peut potentiellement être problématique. Donc voilà, moi maintenant j'ai de la super glue systématiquement.
Oui, mais comme tu le disais, ce qu'on peut imaginer pour un humain, t'imagines un peu les bobos les plus communs qui peuvent arriver en aventure, et pareil pour ton chien, quoi.
C'est tout à fait ça.
Ok. Et au niveau des conditions d'entrée en Suède, tu as eu des choses particulières à faire ?
Absolument pas, absolument pas. Donc la Suède et la Finlande et le Danemark, du coup, comme on parle des pays scandinaves, bien que la Finlande ne soit pas un pays scandinave, mais bref, on va faire l'impasse, on va dire que ces pays du Nord, en tout cas, il y a vraiment que la Norvège qui est vraiment très contraignante. Donc il faut évidemment un chien qui soit avec, bon, il faut prendre le passeport bien évidemment, chien vacciné contre voilà, le vaccin. Je pense qu'ils exigent quand même la rage en Suède, et alors ils exigent je ne sais plus lesquels, je n'ai plus ça en tête parce que ça date, mais il y a quelques petites obligations sanitaires,
les mêmes conditions, mais, globalement que pour l'Europe,
voilà, exactement. Mais donc du coup, Suède, Finlande, Danemark font partie de l'Union européenne, donc c'est exactement les mêmes contraintes que dans un pays européen. La Norvège n'étant pas dans l'Union européenne, c'est ça qu'ils ont des conditions un peu plus complexes.
Ok. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis, justement, vu que tu pars beaucoup à l'aventure tout seul. Comment ça s'est passé pour toi, un voyage organisé ?
Alors, mais c'est ça qui est génial, c'est que... Alors, je vais prendre la question autrement. C'était une de mes craintes. Donc, c'était mon premier voyage avec eux, avec l'agence Travelbase. J'en ai refait beaucoup après, depuis 4-5, parce que j'ai vraiment été étonné. Ma crainte à l'époque, moi qui voyage toujours tout seul, effectivement, c'était de me retrouver avec 40-50 personnes tout le temps, constamment. Et c'est pas du tout, en plus en Scandinavie. Moi, je vais en Scandinavie justement pour un peu expérimenter la solitude, les grands espaces, le fait qu'on soit vraiment tout seul, dans ces grands espaces vides. Et donc, j'avoue que j'avais beaucoup d'a priori, et en fait, ce voyage est extrêmement bien conçu parce qu'en fait, c'est un voyage qui est organisé, non, je devrais plutôt dire semi-organisé. C'est-à-dire que tout est prévu, le canoë, le parcours, les quelques infrastructures, c'est-à-dire le campement de départ, d'arrivée, ben, on a un endroit où arriver. On a aussi ces fameux bidons. On a aussi les repas qui sont les repas lyophilisés qui sont fournis. Le kit pour préparer ces lyophilisés qui sont fournis. Donc, on a vraiment tout pour après partir. Mais par contre, une fois qu'on part, on est totalement libre. C'est-à-dire qu'on a 5 jours sur les lacs. Il y a un parcours qui est proposé, qui fait une, comme je disais, 116, 120 kilomètres. Mais on n'est pas obligé de faire les 120 kilomètres. On peut très bien se dire, je vais faire je sais pas moi, la moitié, le tiers, le quart ou les trois quarts. Ou si vous avez envie de rester 3 jours sur une île, ben libre à vous de rester 3 jours sur une île. C'est vraiment, et ça c'est chouette du coup parce que pendant 5 jours, avec le parcours adapté pour Floki, donc qui était beaucoup plus court, ben on s'est systématiquement retrouvé tout seul les soirs sur une île avec le chien, nous deux, avec ma compagne, et c'était juste magique quoi. Donc
ah oui, donc t'étais pas du tout avec un groupe, il y avait zéro.
Non. Donc en fait, c'est vraiment on a entre guillemets tous les à côté.
C'est comme un voyage clé en main.
Voilà, c'est ça. Mais après, on est en liberté sur le lac. Et donc, il y a toujours évidemment des rangers qui sont au camp de base et qui sont prêts à intervenir s'il y a un blessé, s'il y a le moindre pépin. Mais globalement, pendant les 5 jours, si tout se passe bien, on peut aussi ne croiser personne. Alors, dans les faits, c'est vrai qu'il y a quand même de la camaraderie qui se fait puisqu'on a démarré, tout le monde démarre plus ou moins en même temps. Donc, du coup, tout le monde se retrouve plus ou moins dans les mêmes secteurs. Mais après, c'est vraiment libre à chacun. Nous, en fait, comme on est arrivé avec le chien, on est arrivé une journée après les personnes qui venaient en bus. Donc, nous, on avait un jour de décalage à chaque fois. Donc, nous, on s'est retrouvés systématiquement seuls, sauf à quelques exceptions où on a croisé d'autres équipages. Et là, bah, ça se passe bien. Par contre, on a sympathisé à la fin du voyage avec d'autres qui sont littéralement, ils se sont rencontrés le premier jour. Ils ont fait tout le voyage ensemble, enfin, toute la semaine ensemble.
Oui, donc, tu as pas mal de liberté justement sur ce que tu veux faire, quoi. C'est chouette.
On a la liberté totale et c'est ça qui était que j'avais peur en fait de ne pas avoir parce que c'était organisé, etc. Et en fait, dans les faits, ils ont bien intégré ça et ça respecte totalement la manière de faire des Scandinaves. Donc, c'est-à-dire que les Scandinaves, eux, la nature en Scandinavie, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a le droit de partir et de bivouaquer partout. Il y a ce qu'on appelle le droit de nature. Donc, c'est un droit d'accès à la nature qui est instauré dans la Constitution et qui fait que toute personne a droit à vagabonder comme ça, à planter sa tente, à faire un feu, etc. Et donc, en fait, ça, ils l'ont bien préservé. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette aventure, c'est que on a toute la sécurité d'un voyage organisé, mais la liberté totale d'une vraie aventure, quoi, où on choisit vraiment où planter sa tente, on choisit son île, on choisit son rivage, on choisit de s'arrêter, de continuer. Donc, on a vraiment toutes ces possibilités-là qui sont offertes. Et c'est ça qui était vraiment très, très chouette. Et j'ai eu, du coup, une très agréable surprise en faisant ce voyage parce qu'on a vraiment, moi qui vais très souvent en Scandinavie, j'ai pu retrouver toute la magie des grands espaces scandinaves, mais avec Floki, quoi. Donc, c'était encore plus riche et encore plus magique parce qu'on partage, c'est un chien, ça rajoute une dimension à l'aventure, hein. C'est parfois une aventure en lui-même, enfin, en eux-mêmes. Donc, voilà.
Est-ce que y a un moment plus marquant que les autres ou une anecdote particulière que tu aimerais partager sur ce voyage, que ce soit pour toi ou pour ton chien?
En fait, durant ce voyage, les meilleurs moments, paradoxalement, c'était pas tant quand on était en canoë, mais vraiment quand on était sur ces îles. Moi, je crois que je suis venu à l'aventure parce que j'aime crapahuter dans les bois, j'aime faire des cabanes, j'aime bien sauter dans l'eau, enfin des trucs très basiques. Et en fait, tout ça est possible. Donc, sur l'île, il faisait très bon. Donc, on arrivait, on plantait la tente. Il y avait chaque fois un espace pour le feu, donc je lançais le feu. Et puis, on allait chercher de l'eau, qu'on filtrait, qu'on faisait bouillir. Enfin, on faisait tous ces trucs-là. Et le chien, enfin Floki, est à côté de nous et autres. Et donc, il y a les soirs sont assez agréables. Et je me souviens d'un soir, on avait une île assez petite et Floki était complètement dingue, il faisait le tour du machin, il faisait des zoom zoom à droite et à gauche, il courait entre les myrtilliers, les pins maritimes, il faisait des zigzags, etc., entre la tente et tout. Et à un moment, il s'arrête, on est en train de manger, je sais pas ce qu'il avait entendu ou autre, peut-être un, je sais pas, mais il s'est mis à hurler. Puisque ce sont des chiens qui hurlent comme les loups, et donc ça résonnait comme ça sur tout le lac qui était évidemment gigantesque, et c'était Voilà, c'est un peu son hurlement a entamé vraiment une soirée qui a été mémorable parce qu'on a eu un coucher de soleil de dingue sur cette petite île où là, Floki était vraiment en totale liberté parce que très petite et donc c'était vraiment chouette et j'ai pu faire des images. Enfin, moi je suis enfin photographe du coup et c'est chouette de pouvoir faire des images de son chien qui se marre, qui est en liberté totale, qui saute dans l'eau, qui va choper du bois. Enfin bon, bref, c'était le délire complet et total. Et ça se voyait, c'était communicatif, quoi. Et ça, c'est un bon souvenir parce que c'était une soirée en particulier. Mais en fait, dans les faits, tous les soirs, c'était comme ça. Tous les soirs, on avait Floki qui pétait sa phase et qui jouait, et qui après dormait évidemment comme qui tombait endormi comme une larve parce que claqué mort, quoi. Donc, quand on a ça, on se dit que voilà, on n'a pas non plus fait égoïstement ce voyage et que ça lui plaît. Et ça, je pense que c'est aussi très important.
Ouais, et qui fait son moment aussi. Est-ce que tu as la sensation que cette aventure a peut-être quelque part renforcé votre lien?
Alors, oui et non. Alors, il était très jeune, mais en fait, comme je l'ai très rapidement emmené avec moi au packraft, etc. On avait déjà un lien, mais je dirais
Oui, mais peut-être
que
pas celle-là justement, mais tu vois, justement de partager autant de choses avec son chien comme tu le fais.
ouais, mais paradoxalement, en fait, c'est comme c'était une des premières grosses aventures. C'était alors évidemment, on en est ressorti grandi, je pense tous, Floki aussi, mais bizarrement, c'est plus l'après voyage. Parce qu'en fait, moi, ce voyage, il m'a permis de voir aussi toutes les possibilités que je m'exprime mal, mais j'ai pu voir en fait
Ça a ouvert le
tout
champ
ce
des
que
possibles.
ça a ouvert le champ des possibles de un. Ça m'a permis de voir ce que mon chien aimait bien, voir si parce que parfois on a tendance à projeter un peu ses propres envies, un peu comme un parent sur ses enfants. On projette ses envies et ses intentions sur son animal, mais c'est pas forcément ce que l'animal a envie. Et là, en fait, j'ai pu voir que si en fait le Floki prend son kiff au même moment que moi, et donc ça, c'est chouette. Mais donc du coup, ça a été plus une validation de cet état-là. Et en fait, c'est maintenant que j'en profite vraiment le plus parce que aujourd'hui, je sais que quand je le prends pour aller courir, hier, on est allé faire 15 km dans les bois près de chez moi. Ben voilà, je sais que ça lui plaît et à un moment donné, je sais que ça lui plaît parce qu'il se met à côté de moi, il commence à sauter à côté de moi et il me sourit, etc. Genre content, content, je suis content. Et ça, c'est des signaux qu'il a formalisés lors de ce voyage. Et donc, en fait, disons que j'ai pas forcément vécu la plus belle aventure avec lui à ce temps. Enfin, les moments les plus riches avec lui, j'en ai vécu après coup d'autres beaucoup plus riches. Mais par contre, ça a permis de valider un certain nombre de choses, et notamment de valider aussi des codages parce que finalement, il était encore très jeune et on se connaissait que très peu finalement. Et lui-même ne se connaissait pas encore énormément parce qu'on Enfin, quand je vois le chiot qu'il était
Bah,
à
c'était un
7
petit
mois,
bébé.
voilà, c'était un bébé. Et le chien qu'il est maintenant, ben, même au niveau de ses envies, ben, ses envies ont évolué. Et aujourd'hui, je pense qu'un voyage comme ça, lui, potentiellement, lui plairait encore plus parce qu'il y a toutes ces phases en canoë où là, maintenant, ben, Floki a appris et apprécie aussi de se poser, en fait. Je pense que comme on a une vie qui est assez active, on a des moments très intenses. Donc, typiquement, hier, on est parti de 13 h jusqu'à 22 h. On a enchaîné, on a fait 15 km de trail, puis on a fait de la rando, puis on a fait du packraft et à nouveau de la rando. Voilà,
Ah ouais,
il a
grosse journée.
son grosse journée. Et aujourd'hui, ben, il fait coucou chepagné depuis ce matin, il n'a pas bougé, quoi. Et en fait, du coup, en fait, j'ai pu le cerner. Et donc, quand on me dit qu'un chien nordique, ça demande de l'énergie, oui, ça demande, mais pas forcément en permanence. Et donc, ça, c'est chouette aussi de voir que finalement, il fonctionne comme moi. On fait des journées ou des week-ends où on est à fond les bidons. Et puis après, ben, la semaine, c'est un peu plus cool ou quelques jours, c'est un peu plus cool. Et ce voyage, en fait, a permis de jeter les bases de notre relation, dans notre vie, active, entre guillemets.
Trop bien. T'as dit que maintenant t'arrivais un petit peu à voir ce qui lui plaisait, etc. Et justement que certainement que ses voyages et toutes ses sorties outdoor lui plaisent. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de voyager avec ton chien plutôt que seul, vu que enfin tu dis que tu voyages depuis plus de 12 ans, ça fait 3 ans que tu l'as. certainement une différence entre les deux. C'est quoi pour toi la différence la plus notable?
Alors, bon, déjà, je vais mettre un petit bémol, c'est que donc je voyage toujours autant, et c'est vrai que je vais, comme je l'ai dit, je pense que ça commence à se savoir, je vais souvent en voyage en Scandinavie. Donc, quand je vais en Norvège, malheureusement, ben, je pars seul. Et quand je pars à l'aventure, en tout cas, quand c'est assez engagé, je ne le prends pas. Tout simplement parce que c'est trop dangereux ou c'est potentiellement un risque supplémentaire. Par contre, je l'ai déjà pris pour certaines aventures dans lesquelles, en fait, j'estime... En fait, je fais toujours une analyse coût-bénéfice. Et ça, je pense que c'est capital, a fortiori avec un animal, parce que l'animal, il ne demande jamais rien à rien. Donc, l'emmener avec nous, faut quand même qu'on soit sûr de notre coût. Donc ça, moi, je fais toujours une analyse avant en me disant, tiens, là, par exemple, comme je suis guide de randonnée, je guide souvent des gens. Ça m'est arrivé, mais très rarement, de me dire je ne prends pas Floki. Pourquoi? Parce que ils annoncent de la pluie, mais quand je dis de la pluie, c'est genre comme si on ouvrait la douche de 8h à 16h. Je vais pas prendre mon chien pour finalement risquer qu'il se chope une crasse ou autre. Puis parfois, c'est aussi des contraintes liées au parcours, un parcours trop technique ou genre de choses. Je vais éviter. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus attentif à ça qu'il y a 2 ans maintenant, non, il va y avoir 2 ans, je suis parti à Chamonix moi je fais de la course de montagne et j'ai pris Floki à l'époque avec moi pendant 4 jours. J'étais avec un ami et je suis parti courir en montagne avec Floki. Et c'est bon, comme les étés depuis plusieurs années, il faisait évidemment très très chaud et il y avait 30 degrés à 2000 mètres d'altitude. Et en fait, on s'est fait surprendre. Floki, mon camarade et moi-même, par la chaleur, on était partis relativement tôt, mais force est de constater qu'on n'était pas partis suffisamment tôt. Et donc, on s'est retrouvés sur les coups de 13-14 heures dans le balcon nord de la vallée de Chamonix, dans un cagnard incommensurable et avec un chien qui était à la limite de l'hyperthermie. C'était absolument, absolument dingue et on était bloqués là-bas. Et donc, on a dû... Je me souviens de cette descente cette descente vers Chamonix à la fin du balcon nord qui normalement en course à pied, parce qu'on faisait tout ça en trail, se court en une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, on a mis 2h30 pour descendre parce que Floki avait trop chaud. Il était à deux doigts vraiment de l'hyperthermie. Et là, je m'en suis voulu. Je l'ai arrêté, on lui mettait les pattes dans nos gourdes pour lui refroidir les coussinets, mais il faisait tellement chaud que ça durait 30 secondes et puis c'était reparti et on ne pouvait pas rester là. Il haletait comme un malade et j'ai vraiment stressé. D'ailleurs, à la fin, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'autre solution. J'avais vu que ça existait sur le marché, ces espèces de petits gilets cool. Couleur où on met de l'eau et ça les rafraîchit un petit peu. Du coup, j'ai enlevé mon t-shirt. On l'a mouillé, je l'ai mis autour de son cou en espérant que ça percole un peu dans son poil. Et ça a eu l'air de lui faire du bien. Et donc, on est descendu ainsi jusque Chamonix où là, je l'ai littéralement jeté sur la place du triangle. Il y a une espèce d'abreuvoir comme ça, de fontaine et je l'ai tapé dedans. Et donc, depuis lors, en fait, je fais vraiment très attention. Et donc je ne le prends pas tout le temps.
Ce qui te permet vraiment de pouvoir comparer quand il est là et quand il ne l'est pas.
Voilà, c'est ça. Et donc en fait, pour revenir à ta question de base qui était de savoir si ça avait changé quelque chose, c'est clair que dans les voyages ou plutôt les micro-aventures dans lesquelles je le prends, ça change parce que alors c'est super chouette parce que je passe un agréable moment avec lui. On passe du temps. Qui est extraordinaire. Le soir au bivouac, généralement, moi, quand j'accompagne des gens, je le lâche et alors c'est la folie du slip et il tourne dans toutes les tentes, il va dire bonjour à tout le monde. Quand il y a son copain Pixel qui est avec lui, c'est encore mieux parce que son propriétaire guide aussi avec moi de temps en temps. Et donc ça c'est vraiment des choses qui sont vraiment très chouettes. Maintenant, à nouveau, comme je dis, c'est vraiment comme un enfant, j'ai l'impression, parce que ça rajoute aussi de la charge mentale. Donc moi, quand je guide des gens ou que je suis en expédition avec des personnes, j'ai quand même un peu leur responsabilité. Et quand j'ai le chien, ben, j'ai la responsabilité des personnes avec moi, mais j'ai la responsabilité de mon chien en plus. Et c'est con, mais quand on est en pleine nature et qu'on doit déjà penser à plein de choses pour la sécurité de tout le monde, penser en plus à son chien, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est vrai qu'on a tendance souvent à et moi le premier, hein, à donner une image idéale et presque idyllique d'un voyage avec un chien. C'est la même chose avec un voyage à cheval, mais c'est pas le sujet ici. Mais une fois qu'on part avec un animal, la charge mentale, elle augmente d'office. Il y a toujours un petit stress. Le stress de savoir s'il va se blesser, si on va pas faire une mauvaise rencontre. Il y a toujours un petit peu ça. Donc, disons qu'entre les deux, quand je pars tout seul et quand je pars avec mon chien, il y a toujours quand même un stress qui est quand même un petit peu plus important quand le chien est là. Mais je pense que c'est un stress qui est normal et tout à fait sain. Mais je trouve que c'est important à le dire, d'autant plus quand on veut partir à l'aventure et où justement l'aventure, le propre de l'aventure, c'est de faire face à l'imprévu. Et le chien, ça reste c'est comme si on prenait déjà un imprévu avec soi. Et donc, d'un point de vue sécuritaire, il faut l'envisager, quoi.
Complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une charge mentale importante. Je pense, pareil, quand tu pars avec un enfant ou quoi, ça doit être à peu près similaire. Bon, peut-être à des intensités différentes, mais du coup, tu as toujours une petite partie de ton cerveau qui est avec lui, quoi.
Exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment une partie du cerveau qui est en permanence connectée. Après, voilà, ça reste quand même super, super, et c'est pas impossible. Et il y a des moments où parfois j'ai eu l'inverse. Je suis parti tout seul et je me suis dit, paf, mince quoi. J'aurais dû prendre Floki avec. Il aurait adoré. Et voilà, c'est. Mais effectivement, oui, non, c'est la charge mentale, c'est pas évident. Maintenant, globalement, la majorité du temps, c'est quand même du pur plaisir. Après, moi, j'ai une race aussi qui est un peu particulière, hein, donc c'est quand même. Je remarque avec mes camarades qui ont des chiens ont quand même une charge. Enfin, je vais pas comparer, mais parce que je ne suis pas dans leur tête, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus simple avec d'autres types de chiens. Ici, Floki, c'est quand on est dans les bois, c'est de toute façon, c'est interdit, mais je veux dire, c'est impensable de le lâcher. Donc, il est tout le temps connecté à moi parce qu'il est très réactif au gibier. Ça, pour ça, il n'est pas castré, donc ça joue. Hein. Je sais que je ne me facilite pas la tâche, mais donc voilà, quand je suis dans les bois, c'est ouais, il est attaché avec son harnais avec le harnais et moi mon baudrier, et puis voilà, on est lié. Par les liens indéfectibles de la longe. Et voilà. Et donc, effectivement, sur certains week-ends ou certaines aventures, c'est parfois un peu, c'est un peu compliqué parce que finalement, il n'a pas de moment, à part le soir au bivouac où il a vraiment son moment à lui, il n'a jamais beaucoup de latitude parce que c'est une race particulière et quand, pareil, en bivouac, typiquement, je suis, quand je fais à manger ou que je profite tout simplement autour du feu, je n'arrive jamais à profiter à 100%. Je me suis toujours là. Ah, Floki, il est où? Floki, il est là-bas. Et donc voilà, c'est une petite, toujours un petit stress. Mais l'avantage du voyage que de 2021, le canoë trip qu'on a fait avec Floki, c'est que il était plus jeune, il était encore chaud, et donc tous ces tracas-là, par contre, je ne les avais pas encore parce qu'il n'avait pas, il n'était pas encore mature sexuellement. Niveau du gibier, il était nul. Je voyais plus de gibier que lui. Encore maintenant, le voir, je vois plus que lui. Par contre, lui, il le sent. Mais par contre, il n'était pas du tout réactif à l'odeur, forcément, comme il était chiot. Et donc, c'est vrai que je me dis, ce voyage-là, le refaire maintenant, je serais curieux de voir sa réaction maintenant qu'il est à maturité et qu'il est quand même très sensible, comme beaucoup de chiens, mais qu'il est très sensible aux odeurs de gibier, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant à souligner, notamment pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore de chien, mais qui aimeraient en adopter un. Le choix de la race, il est capital pour ce qu'on prévoit de faire et notre mode de vie actuel, quoi.
C'est ça, c'est vraiment quelque chose de super important et moi qui travaille dans l'environnement, j'ai envie de rappeler quand même que c'est vraiment important de tenir son chien en laisse en nature. Alors je sais que on est dans une phase de recrudescence des chiens. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de chiens Covid, etc. Et je constate moi qui vis à côté d'une forêt, c'est quand même très fréquent qu'on croise des gens qui ne tiennent pas leur chien en laisse. Alors ça peut être un border, ça peut être un golden retriever, un canet corso, ce que vous voulez, mais il faut savoir qu'un chien, ça reste un animal et qu'on est en forêt, dans un univers qui justement correspond mieux à leurs instincts. Et en fait, il faut savoir que quand on oblige les gens à tenir leur chien en laisse, c'est pas pour les embêter, c'est pas pour contraindre le chien, mais il faut savoir qu'en fait la forêt est un écosystème extrêmement fragile. Typiquement, là maintenant, on est au printemps, hein, printemps 2024. On a les faons qui naissent, donc les petits des biches, des chevreuils, etc., qui naissent. Et en tout cas, pour les chevreuils, les faons ont cette habitude très particulière. En fait, les mères les mettent au monde dans des prairies de fauche, et donc ça leur permet de cacher le faon dans l'herbe. Et ici en Belgique, on a un petit aparté. On a justement une ASBL une association sans but lucratif qui s'appelle SOS Bambi et qui fait du survol drone de toutes les prairies pour dégoter justement les faons pour éviter qu'ils se fassent faucher. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Mais par rapport aux faons, bah, par exemple, on se promène avec son chien. Que ce soit un chien qui soit élevé au sang ou un chien qui a ça dans son instinct, hein, qui est un peu sensible au gibier, eh bien, vous risquez d'avoir votre chien qui va aller débusquer le faon qui a quelques jours, quelques semaines, et donc vous allez potentiellement tuer enfin provoquer la mort d'un faon qui n'a rien demandé. On a aussi énormément d'oiseaux qui nichent au sol. Et ça, c'est extrêmement dommageable parce que les chiens vont souvent les faire fuir. Et parfois, on peut avoir de la caste, des chiens qui vont aller chercher les œufs, ça arrive. Tous ne le font pas, mais voilà. Et donc, en fait, il faut avoir conscience qu'on a un animal à côté de soi et que c'est pas toujours le gros patou qui a les quatre fers en l'air en soirée à côté du feu, mais que c'est avant tout... Ben, de base, et a fortiori avec des chiens qui sont primitifs, ben, c'est quand même des animaux qui sont prévus pour être autonomes dans leur nourriture. Et donc, ce sont des chasseurs et c'est plus fort qu'eux. Donc, faut faire dans l'écosystème forestier, faut faire vraiment attention. D'autant plus que ben, la France et la Belgique, là, pour le coup, on est soumis au même registre. Bon, il y a une surpopulation de sangliers. Et là, je peux vous assurer que si un sanglier rencontre votre chien, votre chien pourrait littéralement se faire défoncer la figure. Donc, faut vraiment faire attention. C'est pour la sécurité des animaux de la forêt, mais aussi pour la sécurité de son propre chien, quoi. Ça, c'est... Et malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ne tiennent pas, ou en tout cas qui n'ont pas le contrôle de leur chien. Après, si votre chien a un rappel du tonnerre, bah, c'est tant mieux. Et ça, c'est évidemment louable et c'est évidemment enviable également, mais si on n'a pas la totale maîtrise de son chien, il faut le garder en laisse vraiment pour le bien-être de la nature en fait.
En laisse et qui reste également sur le sentier du coup. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que justement là dernièrement il y a eu encore des nouveaux rappels au niveau de ce qu'on a le droit de faire ou pas avec son chien en dehors des sentiers, mais c'est pas forcément expliquer ou en tout cas pas aussi bien que là je pense, donc c'est cool aussi de faire le rappel et de savoir ok pourquoi je dois attacher mon chien etc.
Mais voilà, oui, nous ici en Belgique, mais je pense que c'est pareil en France, c'est inscrit dans le code forestier. Donc nous, dans le code forestier, il est bien stipulé que en forêt les chiens doivent être tenus en laisse. Et même ça, je l'ai appris récemment, je ne le savais pas, c'est même une laisse de maximum 3 mètres. Bon, après, j'ai appris quand même qu'il y a une certaine tolérance pour des laisses plus longues, mais en gros, on peut être verbalisé ici, par exemple, en Wallonie, c'est 75 € par chien qui n'est pas tenu en laisse. Mais en fait, le truc, c'est que, et ça, je sais bien que nos pays un peu de langue latine, on est un petit peu contre les lois, etc., etc., et on s'offusque beaucoup de tout ça. Mais moi, je voudrais simplement rappeler que l'obligation de tenir son chien en laisse, c'est pas simplement pour emmerder les gens. Il y a vraiment il y a vraiment un lien lié aux écosystèmes. Alors évidemment, il y a peut-être certains auditeurs qui se diraient, ouais, mais enfin, les chiens de chasse, machin. Oui, je suis d'accord. Il y a les chiens de chasse et je suis pas pour la chasse. Et il y a, c'est ce qu'on appelle des chiens de sang et ils sont effectivement en liberté pendant les périodes de battue. Mais là, j'ai envie de dire, la majorité des chasses qui sont faites comme ça et où on a besoin de chiens de sang pour ramener le gibier abattu, la forêt est tellement mise dans un tel foutoir que, je veux dire, là, à la limite, un chien lâché n'a plus aucun impact sur rien puisque la forêt est chamboulée. Mais je veux dire, en temps normal, hors période de chasse, c'est vrai que c'est important de tenir son chien au lait. Ben, en période de chasse aussi, hein, soit dit en passant, parce que bon, donc, faut faire gaffe à ce que votre chien ne soit pas tiré, parce qu'il y a quand même souvent des accidents comme
oui,
ça.
Oui, faire attention à garder son chien en sécurité.
Voilà. Mais donc, du coup,
En
dehors de la période de la chasse, et c'est ce à quoi je vais arriver, c'est que l'obligation de tenir son chien en laisse, c'est pas simplement pour nous ennuyer, c'est qu'il y a vraiment, votre chien peut vraiment avoir des conséquences néfastes pour les écosystèmes forestiers. Et ça, c'est vraiment capital.
Merci pour ce rappel. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas parlé que tu aurais eu envie de partager pendant cet épisode?
Ouais, ben déjà une première chose, c'est que ben si on revient à cette aventure du canoë trip, c'est vraiment si vous comptez faire ce type d'aventure, que ce soit avec Travelbase ou avec d'autres, il y a plein d'opérateurs qui proposent de la location de canoë dans le secteur. Ce que je dirais, c'est vraiment être certain que votre chien a été habitué au préalable quand même à être sur l'eau, parce que ça serait quand même un petit peu dangereux si votre chien se met à sauter en permanence en dehors de l'embarcation. Alors si c'est sur un petit plan d'eau, ma foi, c'est rigolo, mais s'il commence à faire ça au milieu d'un lac de plusieurs kilomètres, ça peut vite virer au drame. Donc vraiment, essayez de ne partez pas à l'inconnu, quoi, essayer de tester des choses. Et ça me permet de faire un peu une transition vers mon activité. Moi, je fais des activités donc principalement en Wallonie, donc le sud de la Belgique, en rando, en bivouac et en packraft. Donc, pour rappel, c'est des petits bateaux gonflables qui tiennent dans un sac à dos. Et pour toutes mes activités, moi, j'autorise les chiens. Donc, comme je disais au début de... Donc, j'accepte les chiens pour peu ben voilà qu'ils soient sociabilisés, bien évidemment, et que les maîtres en aient... la totale responsabilité. Donc, c'est ce que j'aime bien rappeler. Moi, je m'occupe des participants et de Floki, mais je m'occupe pas des chiens des autres. Donc, voilà. Mais généralement, ils trouvent vite des terrains d'entente avec Floki. Et donc, généralement, ils s'autogèrent très, très bien. Mais voilà. Et donc, c'est très chouette parce que, bah, moi, ça m'a permis, avec cette activité et d'avoir directement ouvert, même avant d'avoir Floki, j'ouvrais aux chiens. Toutes mes activités, donc j'ai jamais eu de problème avec ça, que du contraire. Et puis ben, depuis que j'ai eu le Floki, j'avoue que c'est intéressant aussi pour moi parce que ça me permet de le sociabiliser, enfin d'avoir des périodes de sociabilisation, d'autant plus avec un chien comme ça, c'est très intéressant. Et puis ben, ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on est en milieu naturel et je remarque quand même que souvent la sociabilisation se passe encore mieux que dans des parcs, que dans des co-dressages ou ce genre de choses, parce qu'en fait, il y a aucune contrainte, ça fait un peu vacances, même pour le chien. Et en fait, des chiens qui, soi-disant, sont réactifs, comme Floki, hein, d'ailleurs, ben, Floki, typiquement, systématiquement, quand je pars en bivouac ou que je guide des gens, qu'il y a des chiens, d'autres clients ou de participants, ça se passe systématiquement bien. C'est un truc de dingue. Depuis que j'ai Floki, donc depuis 3 ans, il y a, je pense, 2 chiens pour qui ça ne s'est pas bien passé. Et le pauvre, c'est parce qu'à mon avis, il se souvient d'un vieux souvenir, c'est un berger blanc. Ben, désolé les propriétaires de bergers blancs, mais Floki ne vous apprécie pas parce qu'il a été traumatisé petit par un grand berger blanc au dressage. Et je pense que c'est sa némésis, les bergers blancs. Il a une peur bleue, c'est trop marrant. Et donc du coup, hormis ce berger blanc, ça s'est toujours super bien passé. Et c'est super, quoi. Donc, faut absolument pas hésiter à venir, à passer en Ardennes et à venir faire du bateau aussi, si vous le souhaitez, avec votre chien. Ben pour certains, je suis sans doute un peu loin de chez eux, mais sachez quand même que le packraft, donc il y a des revendeurs un peu partout, j'en fais partie, mais il n'y a pas que moi. Je voulais simplement dire que le packraft est tout à fait prévu pour les chiens, donc faut absolument pas avoir peur d'acheter un packraft, que ce soit un packraft de chez Decathlon, un packraft de toute autre marque. Faut savoir que le packraft a été lancé et conçu à la base pour accepter les chiens. Donc, même si c'est du plastique, même si ça a l'air fragile comme ça, c'est vraiment dog-proof à 300%. Donc, faut vraiment pas avoir peur. Et ça, qu'importe la marque, vous pouvez prendre votre chien avec. Et donc, ça, si certains d'entre vous veulent se lancer dans l'aventure, ben, n'ayez pas peur, ne vous posez pas de questions. C'est d'office, c'est bon. Votre chien pourra aller veiller juste à couper un peu les griffes de loup. Mais sinon, pour le reste, c'est tout bon, quoi.
Trop cool. Je mettrai ton lien du coup en description pour les personnes qui veulent en savoir plus. Si les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser ou je sais pas si tu as une FAQ ou si elles peuvent te les poser directement, où est-ce qu'on peut les rediriger ?
Alors le plus simple c'est ici j'ai fait la promotion de mes activités mais j'aime bien faire la part des choses ici comme je parle plus d'un truc passion et tout ça. Donc ça serait plus sur mon blog en fait, sur ma page Instagram Sentier du Phénix par laquelle tu m'as contacté.
OK, super. Ben, on mettra aussi les liens en description. J'ai une dernière question. S'il y avait un épisode que tu aurais aimé écouter sur Twip, donc sur une aventure avec son chien, qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe ou quel genre d'aventure tu aimerais écouter ?
Alors qui, je ne sais pas, par contre quoi. Ben en fait moi je serais vraiment intéressé donc j'ai déjà fait pas mal d'aventures au long cours et là j'aimerais bien vraiment faire comme j'expliquais j'aimerais bien vraiment potentiellement enfin c'est dans mes plans refaire le Kungsleden mais avec Floki et j'avoue que c'est un sentier donc que j'ai déjà fait que je connais mais c'est vrai que d'un point de vue logistique. Là, je viens d'avoir en partenariat avec Nonstop Dogwear le sac à dos qui va permettre à Floki de porter une partie de son matériel. Mais c'est vrai que c'est toute la gestion de la nourriture du chien. Parce que pour répondre à ta question, quelqu'un qui aurait fait un voyage au long cours, donc vraiment un très long trek de plusieurs jours, voire même de plusieurs semaines, et d'entendre plutôt la logistique pour le chien. Parce que on ne se rend pas compte, mais allez, un grand chien comme le mien, c'est 800 grammes de croquettes. Sur 10 jours, ça fait 8 kilos. C'est compliqué, quoi.
Bah, j'en ai fait un sur la traversée de la France à pied, mais le chien était au barf. Donc, ce n'était pas la même logistique. Mais donc, pourquoi ?
Ah ouais, effectivement. Mais là, moi, je parle plus, tu vois, dans un milieu reculé où tu es en full autonomie. Parce que c'est compliqué. Le Kungsleden, je sais qu'il y a moyen de faire du dropping. Donc j'avais croisé des gens qui avaient fait une partie et donc ils dropent tous les X. Il y a un refuge sur cinq où il y a moyen de dropper des trucs et donc ils dropent des croquettes là-bas. Mais je me dis même sur la gestion quotidienne ou même la gestion du sac à dos pour le chien, tu vois, voir un peu s'il y a des conseils à prendre parce que je suppose qu'on peut pas mettre ce qu'on veut. Juste ces questions-là, de voir un peu le sac à dos du chien.
Ouais, la gestion plutôt en milieu un peu plus isolé pendant une longue période, c'est ça ?
Ouais. Parce que moi, très clairement, c'est vers ça que je me dirige avec Floki.
Eh bien, merci beaucoup, Julien, pour ton retour.
Avec
C'était
plaisir.
Super intéressant. Ça donne vachement envie de partir en canoë. Et je te dis à très bientôt.
À très bientôt. Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, TWIP, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.